Je vous invite à reprendre l'épître de Jacques, mais on va sauter quelques petites parties pour nous attacher à un passage qui parle un peu de la prière, qui parle beaucoup même de la prière. Donc Jacques chapitre, peut-être vous avez lu dans les deux groupes, Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 13. Jacques chapitre 5, verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Donc voilà ici, dans cet épître, une petite section, on pourrait dire, sur la prière, mais c'est assez tonique. Hein? Je ne sais pas si vous avez senti ça, mais on est quand même exhorté assez fermement par Jacques, comme un peu dans toute l'épître. Hein? Il y a beaucoup de recommandations dans cette épître, beaucoup d'exhortations et qui sont assez vives et qui nous interpellent. Alors ici, on pourrait dire que Jacques présente un peu 3 types de prières, pas si on peut dire ça comme ça. Premièrement, il y a la prière personnelle. Hein, on pourrait voir ça, verset 13, il dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ?» S'il y a des gens qui sont dans une situation particulière, eh bien, ils peuvent prier. Cela sous-entend qu'elle prie pour elle-même. Donc la prière personnelle pour soi. Et puis, au verset 14, il parle de celui qui est malade. Si quelqu'un est malade, eh bien qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour cette personne, prient pour lui. Eh bien, on pourrait dire ici que c'est la prière sollicitée. Hein. Le croyant est appelé à solliciter la prière de la part aussi des autres, et en particulier ici des anciens de l'Église. Et puis verset 16, il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres ». On pourrait dire que là, on a ici la prière communautaire. On prie ensemble les uns pour les autres. Donc on prie personnellement pour soi. Il y a des situations où on sollicite la prière de la part des responsables de l'Église, c'est ce qui est écrit là. Et puis, des situations, en général, où aussi on est amené à prier les uns pour les autres, en ayant confessé les péchés les uns aux autres. Donc, regardons d'abord la prière personnelle pour soi. Ici, il dit que la prière, nous sommes exhortés plutôt ici à prier quand nous sommes dans la souffrance. Quelqu'un est-il dans la souffrance? C'est ça qu'il dit ici. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il doit faire quand il est dans la souffrance? Essayez d'imaginer ce que vous faites quand vous êtes dans la souffrance, dans les épreuves, dans les difficultés. Parfois, c'est peut-être les premières choses qui viennent à l'esprit, c'est des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis comme ça? Etc. Ou alors, pourquoi est-ce que je vis telle situation quand c'est une situation difficile? Alors ici, la souffrance, c'est tout ce qui peut arriver hein, à l'enfant de Dieu. On ne parle pas ici tellement parfois des conséquences du péché dans ma propre vie. Des fois, je peux souffrir parce que voilà, j'ai commis quelque chose de mal. Mais le chrétien, l'apôtre Jacques l'avait souligné dans le premier chapitre. Vous vous rappelez, il avait parlé des épreuves et de regarder les épreuves comme un sujet de de joie, eh bien, les épreuves, les souffrances peuvent survenir dans la vie du chrétien. Donc, Jacques assume ici que la souffrance atteint les enfants de Dieu. Quand il parle au même chapitre 5, verset 10, si vous regardez, il dit « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur Jésus. » Donc, il assume que les prophètes du temps ancien ont connu la souffrance. La Bible dit même que le malheur atteint souvent le juste. Vous avez marqué le mot « souvent » C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Parfois, on voudrait croire que la souffrance dans la vie du chrétien est quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Et que non, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'apôtre Paul, lui, quand il parle par exemple à Timothée, on sait bien que son ministère a été parsemé de souffrances. Et il dit, pour toi, il dit à Timothée, par exemple, dans 2 Timothée chapitre 3, il lui dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, il dit même que ceux qui veulent vraiment vivre pour Christ connaîtront la persécution. Donc, Jacques assume ici que quelqu'un peut être dans la souffrance. Ça, il ne dit pas que tout le monde est dans la souffrance en même temps, parce qu'il dit quelqu'un parmi vous, c'est pas tous, vous êtes dans la souffrance, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance. Et là, il va dire ce qu'il faut faire quand on est dans une telle situation. Il insiste ici sur l'attitude que le croyant doit avoir au sein de la souffrance. N'oublie pas que cet épître, Jacques parle de la véritable maturité chrétienne. Comment est-ce que le chrétien répond aux différentes circonstances qu'il vit? Et ici en particulier, qu'est-ce qu'il fait quand il souffre? Eh bien, ici, il dit qu'il prie. C'est tout radical. Qu'il prie. Alors, le temps du verbe ici suggère une prière continuelle. C'est comme s'il disait qu'il continue à prier. Quelqu'un est-il de la souffrance? Eh bien, qu'il prie et qu'il continue à prier. Et donc, il ne dit pas ici ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit demander, mais il commande simplement de prier. Et c'est vrai qu'il est légitime, je pense, de demander au Seigneur d'enlever une souffrance ou d'enlever une difficulté ou une affliction que l'on subit. Mais il semble ici que ce ne soit pas vraiment le point de Jacques. Et si on se réfère à ce qu'il dit, on a lu déjà au verset 10, où il demande de prendre même l'exemple de ceux qui ont souffert, pour dire, voilà, il vous faut aussi persévérer, même quand la souffrance est là, et regarder ceux qui sont passés avant vous, qui ont souffert, et pour pouvoir persévérer comme eux, eh bien, prier, et continuer à prier. Donc il pousse, on pourrait dire ici, les chrétiens à prendre comme modèle d'autres chrétiens qui sont passés par la souffrance, et puis il les incite ainsi à prier, à saisir ces circonstances pour pouvoir prier. Donc ce qu'il dit en fait, c'est que le croyant doit avoir une attitude qui consiste à parler à Dieu lorsqu'il souffre. Parce que dans la prière, qu'est-ce que l'on fait? On parle à Dieu. Souvent, on va attraper le téléphone, tu sais pas ce qui m'est arrivé, et puis un autre, tu sais pas, etc. Mais la première chose, et la chose continuelle que le chrétien doit faire, c'est de parler à Dieu. Et c'est cela qu'on fait quand on prie. Donc ce n'est pas tant l'expérience de la délivrance, de l'épreuve qui est recherchée ici, que l'expérience de la force que Dieu donne dans la souffrance à ceux qui répandent leur âme devant lui dans la prière. Vous voyez? C'est pas, il dit pas, voilà, priez pour que vous soyez délivrés, pour que Dieu vous sorte de la situation. Il dit, priez continuellement lorsque vous êtes dans la souffrance. Et c'est une manière de dire, parce que vous allez expérimenter la grâce, la force que Dieu donne afin que vous supportiez les souffrances, comme ceux dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire Job, par exemple, dont il est question au verset 11 et puis d'autres prophètes. Ici. Donc, que doit être le contenu de cette prière? Il ne dit pas ici. On aurait aimé savoir, mais Jacques, d'accord, je prie quand je suis dans la souffrance, mais je demande quoi à Dieu quand je suis dans la souffrance? Eh bien, je crois que le contexte nous dit ce qu'il attend, et ce qu'on a commencé à lire depuis le chapitre 1, nous dit ce qu'il faut attendre, ce qu'il faut demander dans la prière. Si vous regardez Jacques chapitre 1, par exemple, il dit ici, « Mes frères, verset 2, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » D'accord ? Donc, on pourrait dire que le contenu de la prière ici, ce serait quoi ? Que Dieu change ou transforme peut-être ma vision sur la souffrance elle-même. Il dit « Regardez comme un sujet de joie complète ». Il dit que souvent, on ne regarde pas les souffrances comme un sujet de joie. Mais j'ai besoin de prier pour que, quand la difficulté est là, je puisse, avec la grâce de Dieu, voir que, avoir un regard, une vision juste sur les souffrances. La souffrance atteint souvent le juste, ça me permet de savoir cela, que Dieu utilise efficacement la souffrance dans la vie du croyant. Parce que ce qu'il dit, regardez verset 3 de ce chapitre 1, il dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. » Ça veut dire que quand on est dans la souffrance, le premier réflexe ne doit pas être forcément de, par tous les moyens, de chercher à sortir de cette situation, si on peut, si c'est possible, si c'est quelque chose qui est possible, oui, pourquoi pas. Mais il dit qu'on doit, dans la prière, chercher à demander à Dieu d'ouvrir nos yeux sur le sens que peut avoir cette souffrance. Si tu le permets, il y a certainement une raison. Et Dieu est toujours en train d'œuvrer en nous pour, comme il le dit ici dans ce premier chapitre, pour nous transformer, nous perfectionner, nous rendre parfaits. Et il le fait à travers la souffrance. Je pense, j'ai pas la référence, mais c'est concernant Jésus où il était question qu'il a été, après avoir souffert, il a été élevé à la perfection. Dieu utilise cela. Et donc, nous pouvons prier, ça peut être le contenu de la prière, nous pouvons prier quand on est dans la difficulté et dire, donne-moi une juste vision des circonstances dans lesquelles je suis actuellement. Surtout quand c'est des choses que nous n'avons pas cherchées, des choses qui nous tombent dessus à cause de notre foi, etc., ou difficultés familiales ou autre chose, eh bien, Dieu a certainement des choses à nous apprendre et nous pouvons le prier dans ce sens-là. Une autre manière, un autre contenu qu'on peut avoir dans cette prière, même chapitre, verset 6, il dit, verset 5, pardon, « Si quelqu'un d'entre vous manque de, quoi ? Sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Voilà, c'est une prière, Il dit « Demandez quoi ici ? Demandez la sagesse à Dieu. » Si vous en manquez, et qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. D'accord ? Mais qui la demande, bien sûr, avec foi et sans douter. Et dans la souffrance, on a besoin de sagesse aussi. Parce que il faut parfois prendre des décisions quand on est dans la souffrance, quand on est en difficulté. Et souvent, on dit aux gens, attention, c'est pas là qu'il faut prendre forcément des grandes décisions parce que on est dans le réactif. On souffre et parfois on est tellement comment dirais-je, avec cette pensée qu'il faut s'en sortir qu'on peut faire n'importe quoi. On peut prendre n'importe quelle décision au sein de la souffrance. D'accord ? Et il dit non, on a besoin à ce moment-là de sagesse. Il faut prier Dieu, lui demander de la sagesse pour savoir prendre les bonnes décisions, avoir même les bonnes réactions quand l'affliction est là. Voilà, ce sont par exemple deux choses, on pourrait en trouver d'autres ici, que l'on peut demander à Dieu au sein de la souffrance. Et donc il dit, quand quelqu'un souffre, l'attitude qu'il doit avoir, c'est celle qui consiste à parler à Dieu. Demande-lui d'ouvrir ta vision sur ce que tu vis. Demande-lui la sagesse pour agir conformément à sa volonté dans cette décision. Je me rappelle de quelqu'un qui disait qu'il ne faut pas gâcher nos épreuves. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut gâcher une épreuve que Dieu nous envoie. Comment est-ce possible? Parce que il dit ici que Dieu envoie des épreuves parfois pour nous perfectionner. Mais si on agit n'importe comment, on parle n'importe comment, on se plaint, on passe à côté de ce que Dieu avait pour nous comme but à travers cette épreuve. Donc il faut être sage, il faut demander à Dieu sa sagesse quand les circonstances difficiles sont là. Donc ça c'est, on pourrait dire, l'exhortation de Jacques ici pour nous. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Eh bien qu'il prie. Qu'il prie quand il est dans la souffrance. Deuxièmement, il dit, quelqu'un est-il dans la joie? On reprend le chapitre 5. Il dit, quelqu'un est-il dans la joie, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il chante des cantiques. Être joyeux ici, hein, c'est être dans de bonnes dispositions d'esprit. Le terme évoque le fait d'être dans de bonnes dispositions d'esprit. C'est être rassuré. C'est prendre courage. D'accord? C'est pas forcément être dans des circonstances qui sont heureuses, hein. Et donc, je suis content parce que tout est facile autour de moi. C'est pas forcément ça. On peut être dans la joie, même au sein, puisqu'il demande de regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves, mais on peut être dans la joie même au sein de la difficulté. Il dit même quand on est dans cet état-là, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est pas dire, ouais, regardez comment je suis fort, moi. C'est pas l'épreuve. C'est ma joie. Okay? C'est pas ça qu'il dit de dire. Il dit, quand on est dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Au contraire, on doit rendre grâce à Dieu et louer Dieu et chanter Dieu. Parce que c'est lui qui permet qu'on soit dans la paix quand on a des situations difficiles ou qu'on soit dans de bonnes dispositions. Donc le sens ici, c'est vraiment être rassuré pour le terme joie, prendre courage. On retrouve par exemple ce même mot en Actes chapitre 27, verset 22. Vous vous rappelez, lorsque Paul est sur le bateau qui est en train de faire naufrage, et puis il parle à tous ceux qui sont avec lui, il dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage. C'est le même mot ici qui est utilisé par le mot joie ici dans l'épître de Jacques. Il dit, car aucun de vous ne périra. Rassurez-vous, soyez dans de bonnes dispositions, aucun de vous ne périra. D'accord, le danger il est bien là, la circonstance difficile est bien là, mais le cœur est rassuré, parce qu'on sait que l'issue sera heureuse, c'est ce qu'il dit. Et puis un peu plus loin, il leur dit, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, c'est encore le même mot, hein, au verset 25, acte 27, verset 25, il dit, ô homme, rassurez-vous, hein, c'est le même mot qui est traduit par joie ici, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Il dit donc, prenez courage, soyez en paix, soyez dans de bonnes dispositions, parce que même si vous voyez la difficulté ici, eh bien, on sait que l'issue sera bonne. Dieu me l'a dit et j'ai cette confiance en lui. Alors rassurez-vous. Et donc voyez, ici, même quand les circonstances sont difficiles, on peut avoir cette paix, cette assurance, être rassuré. Et Jacques dit, même lorsque vous êtes dans cette disposition d'esprit, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller encore à Dieu et le chanter. Et c'est le sens qu'a ici ce mot. Chanter des cantiques. Il sait que l'on oublie facilement ici, quand on est en paix, on peut oublier Dieu facilement. Et il dit, voilà, lorsqu'on a de la difficulté et qu'on souffre à cause de la difficulté, oh, peut-être qu'on va prier. Mais quand on est peut-être un peu confortable, on pourrait dire, eh bien, on oublie souvent d'aller vers Dieu. Donc il dit, quand les choses vont bien, n'oubliez pas de rendre grâce à Dieu et de chanter. C'est exactement ce que Dieu avait dit, vous vous rappelez, à son peuple qui sortait d'Égypte, quand il leur dit, lorsque vous serez dans le pays de Canaan, pays où coule le lait et le miel, d'accord, il dit, rappelez-vous, hein, que c'est Dieu qui vous a accordé toutes ces choses pour que vous puissiez lui rendre grâce, d'accord. Donc il sait que l'on a tendance à oublier. Donc il faut chanter, chers frères et sœurs, des cantiques lorsque on a l'impression, en tout cas, que tout va bien. Célébrer Dieu, c'est faire résonner, hein, la louange. Le sens du mot ici, chanter, c'est frotter, comme frotter une corde, comme dans la harpe. On fait résonner. Je pense que c'est Esaïe, dans Esaïe, il est dit, je ferai résonner les cordes de mon instrument, car l'Éternel m'a sauvé. C'est-à-dire qu'on a, voilà, la joie que l'on a, la bonne disposition d'esprit, doit nous pousser à faire résonner la louange vers Dieu. Et je vous fais remarquer que Jacques ici exhorte à chanter. Il commande à prier, il dit qu'il prie, mais il commande aussi à chanter, qu'il chante. Et ces deux choses ne sont pas des choses naturelles pour le croyant. Prier n'est pas quelque chose de naturel. Et chanter non plus. Et je me demande si ça n'est pas encore moins d'ailleurs, parfois. Hein? Chanter. On entend parfois des personnes dire, oh, moi, le chant, c'est pas mon truc. Hein? Ou alors, je chante faux. C'est pas la peine. Bon, et puis, pour avoir parfois aussi présidé les cultes et faire chanter l'assemblée, des fois, on voit des gens qui n'ouvrent pas la bouche pour chanter. Mais, savez-vous combien de fois la parole de Dieu nous exhorte à chanter. C'est extraordinaire. J'ai regardé cet après-midi comme ça, juste quelques passages comme ça. Il y a plusieurs centaines de fois dans la Bible. Et encore, ça s'est chanté sous une certaine forme. Je n'ai pas cherché toutes les formes du verbe. Je n'ai pas cherché célébrer. Je n'ai pas cherché faites monter. Non, mais juste le mot avec le radical chant. Hein, c'était plus de 280, presque 300 fois dans la Bible. Chantez à l'Éternel, cantique nouveau. Faites éclater. Hein. La Bible exhorte partout le chrétien à chanter. S'il y a quelqu'un sur la surface de la terre qui devrait chanter à Dieu, c'est le croyant. Parce qu'il est l'objet de la grâce de Dieu. Et quand il est dans la joie, sa joie devrait s'exprimer, dit Jacques ici, par le fait de chanter. L'apôtre Paul disait, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça, c'est une exhortation pour le croyant. Et comment est-ce qu'il peut être rempli de l'esprit? Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur et rendez continuellement grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 17 à 20. Donc ne pas chanter, c'est désobéir. Ne pas chanter, c'est désobéir. Et on peut se poser la question, quand c'est que nous chantons? Est-ce que c'est seulement le dimanche matin ou est-ce que nous chantons aussi à la maison? Cela veut dire qu'il faut que nous chantions à la maison. Il faut que nous chantions même dans les circonstances qui sont parfois difficiles. Il y a beaucoup de... Je vous lis un psaume qui dit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Le chrétien doit chanter quand il est tout seul et puis quand il est aussi avec les autres. Quand quelqu'un vient chez nous, d'autres chrétiens viennent chez nous, c'est aussi l'occasion de chanter quelques cantiques. N'est-ce pas? Je sais qu'il y en a plusieurs qui le font et nous devons développer cette habitude de chanter ensemble des cantiques. Parfois, les chrétiens se retrouvent et puis ils discutent de beaucoup de choses. De foot, de prix du gazole qui augmente, je sais pas moi, bon, ceux qui ont des voitures au moins, on se plaint de tout, peut-être qu'on parle de trucs à la télé, j'en sais rien, mais on parle de beaucoup de choses, et on ne prend pas forcément le temps de chanter. On ne prend pas forcément le temps de chanter quand on est en famille, le soir, dans le culte. On ne prend pas, parfois, est-ce qu'on a même un cantique à la maison? Et c'est des choses qui sont des commandements de Dieu pour nous, hein, ici. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'est retrouvé en prison avec Silas, vous vous rappelez, c'était à Philippe, la Bible dit qu'il était minuit, vers le milieu de la nuit, enfin pas minuit, dit vers le milieu de la nuit, ils sont attachés, les pieds dans les fers, et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent et ils prient, les deux choses. Et je vous lis le passage, il dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et il ne marmonnait pas quelque chose du style. Non, parce qu'il dit, après, les prisonniers les écoutaient. Moi j'ai écouté, entendais, parfois écoutais. Okay? Des fois, d'autres traditions disent entendaient. Donc ça veut dire que c'était compréhensible ce qu'il disait. C'était suffisamment fort pour que les autres les entendent. Et l'enfant de Dieu, qui a l'esprit de Dieu en lui, doit chanter lorsque les circonstances difficiles sont là. Mais aussi lorsque les circonstances faciles sont là. Il doit être. Donc dans les deux cas, vous voyez ici, dans les deux cas, qu'est-ce que Jacques fait? Il nous dit, il nous pousse vers Dieu. Vous voyez? Il s'est dit, la situation difficile, parle-lui. Vous êtes dans une situation, un état d'esprit qui peut être une bonne disposition d'esprit, chante-lui. Dis-lui qu'il est grand, dis-lui qu'il est bon, dis-lui qu'il est merveilleux. Annonce ses bienfaits. Mais dans les deux cas, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse le croyant vers Dieu. Vous voyez cela ici? Soit dans la prière, soit dans la louange. Et donc la prière, on pourrait dire, et le chant sont assez proches. Hein? On peut avoir prié en chantant et chanter en priant. Hein? Les choses sont relativement proches, comme pour Paul et Silas dans la prison. Mais par exemple, en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, l'apôtre Paul dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec intelligence et je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec intelligence. Il met les deux choses encore en même temps. La prière et le chant. Je vais prier par l'esprit, je vais prier aussi avec intelligence de manière à ce que tout le monde puisse me comprendre, mais je vais aussi chanter de manière à ce qu'on puisse comprendre ce que je chante. Donc ça c'est ici pour, on pourrait dire, la prière personnelle. Mais Jacques va un peu plus loin, il parle encore d'autres situations. Regardez au chapitre 5, verset 14, il dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Ici. Donc le mot ici malade, hein, donc vous pouvez dire ici c'est la prière sollicitée. Hein. Voilà, le chrétien aussi, dans certaines situations, doit solliciter la prière. Donc s'il est particulièrement ici malade, donc ça peut être traduit par une maladie, genre maladie physique aussi. Mais aussi par le fait d'être sans force. Hein. Par exemple, dans Romains chapitre 5, quand il est dit « Lorsque nous étions sans force, Christ est mort pour nous », c'est à peu près le même mot qui est là, en fait, c'est la même racine. Ici, donc, ça peut être la faiblesse, le manque de force, le manque de ressources. Et notez ce qu'il dit pour les personnes qui sont peut-être dans une extrémité, hein, peut-être une maladie extrême ou une faiblesse extrême. Il dit qu'ils ont la responsabilité d'appeler les anciens de l'Église. Tout ça, il dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église? Jacques ne dit pas de ne pas appeler le médecin si on est malade physiquement. Il ne dit pas que les anciens de l'Église sont plus compétents que les médecins. Il ne dit pas ça. Mais il dit, il est telle situation parfois, même si c'est la maladie, voilà, évidemment, on est malade, il y a peut-être d'autres choses dont on a besoin, le soutien dont on a besoin, et il faut faire appel. La responsabilité, l'exhortation, le commandement, l'ordre qui est donné ici, c'est de faire appel aux anciens de l'Église. C'est comme cela que Dieu a prévu les choses. Donc, il soutient qu'il y a parfois des situations qui exigent, qui sont telles, qui sont à une telle extrémité, qu'elles exigent que le croyant fasse appel. Et donc, les anciens, bien sûr, doivent venir. Ça, si le malade a une responsabilité, les anciens aussi ont une responsabilité, ils doivent venir. Et que les anciens, ils ajoutent, donc, prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Alors, le malade doit solliciter, bien sûr, les anciens de son église. Hein, c'est ce qui est écrit ici. Cela sous-entend, ce sont les anciens de son église. Mais les anciens sont commandés aussi de prier pour le malade, en loignant d'huile. Alors, bien sûr, l'onction d'huile, je ne sais pas si vous avez déjà vu cela, peut-être dans certains pays on pratique plus, dans certaines églises on pratique plus l'onction d'huile ici. L'expression, bon, ce n'est pas ici un rite particulier, un cérémoniel qu'il faut mettre en place pour quand on va prier, quand les anciens prient avec des malades. Je me rappelle, on a fait cela une fois ici, hein, il y a très très longtemps, hein, pour quelqu'un qui avait sollicité la prière, je m'appelle Exti, peut-être Jean-Pierre aussi, c'était là, je pense, hein, déjà. Et pour quelqu'un qui avait sollicité la prière, qui était très très malade, et qui voulait qu'on fasse comme l'épître de Jacques le commande ici. Et nous l'avons fait. Et nous l'avons fait. Avec onction d'huile. Alors ici, ce n'est pas, l'expression pourrait vouloir dire en massant d'huile. Hein. Il y a ce sens-là, comme quand on passe une pommade, et on connaît un peu la signification de l'huile dans l'écriture. Il y a beaucoup de passages qui parlent de l'onction d'huile dans l'Ancien Testament. Au total, je pense une vingtaine dans la Bible, à peu près. Mais à peu près quatre fois dans le Nouveau Testament. Alors, l'expression, par exemple, elle est utilisée en Marc chapitre 6, verset 13, où il dit que les disciples chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Okay. Et certains commentateurs pensent que peut-être que c'est cette image que Jacques a dans l'esprit et quand il parle et qu'il dit voilà que les anciens viennent, qu'ils prient en moignant d'huile. Mais bon, il n'y a pas, faut pas croire qu'il y a quelque chose de magique qui se passe parce que On a peut-être passé de l'huile sous le front, c'est même pas. Et là, je fais remarquer qu'il n'y a aucune explication particulière de procédé ou de process, hein, comment il faudrait faire. Donc ici, bon, probablement ça se pratiquait là à cette époque. Probablement ça avait simplement une signification médicale. D'autres pensent que c'est peut-être un peu plus. Peut-être qu'il y avait une question symbolique ici avec ce que l'huile représente. Bon, ça n'est pas vraiment explicité. Ce qui est sûr ici, c'est que ce sur quoi Jacques insiste, ça n'est pas l'onction d'huile, c'est la prière. C'est la prière, parce que plusieurs, tout autour ici, hein, il parle vraiment de la prière, et puis il dit, voilà, que les anciens viennent, et puis prient pour cette personne en l'oignant d'huile, et après encore il parle de la prière sans parler de l'onction d'huile. On ne trouve pas partout dans les épîtres la prière avec l'onction d'huile. Donc on ne peut pas dire que c'est quelque chose qu'il faut ériger en un système ou quelque chose qu'il faut absolument faire, hein, ici. Si cela peut symboliser pour certaines personnes le fait que s'il y a guérison, cela ne vient pas des hommes avec ce qu'ils sont capables de faire, mais cela vient de Dieu qui donne son esprit. Il y a peut-être un sens comme cela derrière, mais il ne faut pas croire que c'est quelque chose de magique et de systématique qui se passe parce que les anciens viennent prier à la maison. De même que quand les anciens viennent prier chez quelqu'un, il y a des gens qui disent « Ah, les anciens sont venus prier chez moi, c'est quelque chose de... Wow. » Bon, c'est bien de prier. Si quelqu'un d'autre est venu pour prier, Dieu écoute aussi la prière. Ce qu'il y a, c'est que quand on le fait, on obéit à ce que la parole de Dieu dit ici. Et puis cela veut dire que la parole considère les responsables de l'Église comme les dirigeants spirituels aussi de l'Église, et que c'est une bonne chose lorsque il y a des difficultés et que l'Église se tourne vers les anciens pour solliciter de l'aide. Ça, c'est une chose qui est importante. Plutôt que d'aller cliquer sur Internet ou d'aller voir chez quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas, comme certaines personnes m'ont déjà dit, des fois, elles disent « Ouais, moi, je suis allé dans telle église, j'ai vu tel pasteur qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela. » C'est pas ce que la Bible dit ici. Okay? La Bible dit ici qu'on doit être sage et solliciter ce que Dieu met auprès de nous. Mais bon, l'onction d'huile ici peut avoir une approche peut-être médicale aussi, purement médicale. Rappelez-vous du bon samaritain, quand il avait pris cet homme qui était sur le chemin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé sur sa plaie de l'huile et du vin. Hein, un peu ça, c'était quelque chose qui était utilisé pour adoucir, etc. Et comme on parle ici de maladie, certains pensent que ça peut vouloir dire simplement le fait donc, d'avoir une attitude médicamenteuse. Bon. L'important ici à souligner, c'est que Jacques insiste sur le fait de prier, de solliciter la prière de la part des anciens, de ne pas avoir peur de le faire, surtout quand on est dans des cas extrêmes. Et puis il ajoute ici, la prière de la foi sauvera le verset 14, il dit 15, la prière de la foi sauvera le malade. Bon, la prière de la foi, c'est la prière faite avec foi, sans douter. Rappelez-vous, Jacques chapitre 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement. Verset 6, mais qu'il la demande comment? Avec foi et sans douter. Ça veut dire que celui qui prie la prière que Dieu demande de la part des anciens et de la part de tous, c'est une prière qui s'exprime dans la foi véritable à Dieu. On peut pas prier Dieu et puis se dire bon, mais je suis pas certain qu'il va faire ce que je demande. Celui qui doute, il dit ici, Jacques dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est-à-dire c'est un Dieu n'est pas honoré quand on le prie. Il ne demande pas simplement de le prier, une formule. C'est pas ça qu'il demande. Il demande un cœur qui a profondément confiance en lui. Quand on prie Dieu, on doit s'attendre à ce qu'il agisse. Quand on le prie, ça veut dire que l'on croit qu'il a la capacité d'accomplir ce qu'on lui demande et de faire même mieux, même plus, au-delà de ce que nous pouvons demander et même penser. On le croit tout puissant pour ce que qu'on lui demande. Et celui qui s'approche de Dieu et puis prie simplement pour prier, parce qu'il récite une formule, mais il ne croit absolument pas en Dieu, dans la puissance de Dieu de le faire, il dit qu'ils ne s'attendent pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parfois, on peut être comme ça. On prie pour demander quelque chose à Dieu, et on n'attend même pas la réponse de Dieu. On a déjà entrepris de résoudre le problème nous-mêmes. C'est exactement dire qu'on ne croit pas dans la capacité de Dieu à répondre à notre prière. Okay. Donc ça, c'est un peu ce que appelle ici, je crois, la prière de la foi. Et je vous rappelle, dans beaucoup d'endroits, dans plusieurs endroits en tout cas, vous vous rappelez lorsque Jésus parlait et qu'il guérissait des gens, où il répondait à la prière des gens, il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, il voyait la foi des gens, cette foi qui était visible pour lui, et il répondait selon la foi que les gens exprimaient. Donc, c'est important, quand on s'approche de Dieu, de croire que Dieu existe, de croire qu'il a la capacité de répondre à notre prière, de croire qu'il est souverain et qu'il peut tout arranger, tout coordonner selon sa volonté. Avoir cette attitude de confiance et ne pas douter de lui. Et je vous fais remarquer qu'il dit aussi, le Seigneur le relèvera. C'est ça qu'il dit. Voyez au chapitre 5, verset 15, il dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Alors, on ne doit jamais oublier que c'est le Seigneur qui relève, qui agit et qui guérit. Ça peut vouloir dire ici le relèvera de son lit, hein, ou le relèvera de la situation dans laquelle, de faiblesse dans laquelle il est. Mais c'est toujours le Seigneur qui agit. C'est pas la prière en elle-même. D'accord? La prière est un moyen. C'est un instrument. Ce ne sont pas les anciens en eux-mêmes. D'accord? Qui sont quelque chose. Ce sont les instruments que Dieu utilise. Mais c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui sauve. C'est lui qui agit. Et cela, il faut être conscient de ça. Je veux bien que Jacques le rappelle. Très fermement, il dit la prière de la foi sauvera le malade, d'accord, mais il ajoute avec cela, et c'est Dieu qui agit au travers de cette prière de la foi. Il ne faut pas non plus oublier cela. Et puis, je termine avec ça pour ce soir. Il fait un rapprochement quand même ici entre la maladie et le péché. Vous avez vu ça un peu? Il dit, et si s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Et ça, c'est un aspect parfois que l'on évacue un peu facilement. Toute maladie est la conséquence du péché. Toute maladie est la conséquence du péché. Parce que c'est par le péché que la maladie est entrée aussi dans le monde. Donc toute maladie en général est la conséquence du péché. Ça, c'est une première vérité. Mais il y en a une autre qui va avec celle-là, c'est que, et il faut le souligner, hein, c'est que la maladie d'un croyant n'est pas forcément la conséquence de son péché personnel. Vous comprenez la différence ici? La maladie en général, toutes les maladies générales, sont la conséquence du péché. On souffre à cause du péché. On est malade à cause du péché dans le monde. Mais ce n'est pas parce qu'on est malade dans une situation particulière, que cette maladie particulière est la conséquence du péché. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit concernant l'aveugle-né, en Jean chapitre 9, lorsque ses disciples lui disent, « Seigneur, est-ce cet homme ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus dit, « Non, ce n'est pas à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. » Donc il y a des situations, d'accord, où Jésus dit ici, ce n'est pas, la maladie n'est pas la conséquence du péché. Vous pouvez vous rappeler aussi Luc chapitre 13, lorsque des juifs qui viennent voir Jésus, puis qui lui disent, oui, il lui parle des juifs que Pilate a fait massacrer en mêlant le sang de leur sacrifice avec leur propre sang. Et Jésus lui dit, mais ce n'est pas que ces hommes aient été des plus grands pécheurs que les autres. Il dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc il dit, oui, il y a des choses comme ça qui se passent, mais ce n'est pas forcément à cause du péché personnel de ces personnes-là. Mais il y a aussi des situations, chers frères et sœurs, où le péché dans la vie, la souffrance ou la maladie, et même la mort dans la vie du croyant, est la conséquence du péché. Et on a un vibrant exemple de cela dans 1 Corinthiens chapitre 11. lorsque l'apôtre Paul dit, regardez ça avec moi, en Corinthiens 11, verset 11, verset 30, vous vous rappelez, quand il y avait du désordre dans l'église à cause de la scène, et je termine avec cela, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30, l'apôtre Paul dit ceci, verset 28 déjà, il dit « Que chacun s'éprouve donc soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre eux, lui-même, il dit, on ne prend pas impunément la table du Seigneur. C'est péché que de le prendre de n'importe quelle manière. Et il dit, verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Puis imaginez ça. Il y a peut-être des gens qui sont morts à cause d'une grippe. L'autre, il avait un cancer. Et l'autre, il est mort d'une mort subite. Et puis d'autres qui sont encore malades. Et Paul dit, oui, il y a des personnes là parmi vous, pas mal. Il dit, même, beaucoup, hein, d'infirmes, beaucoup, etc., parmi vous. Il dit, il y en a plusieurs comme ça qui sont dans une situation. Certains sont déjà même morts, c'est à cause du péché. Vous voyez? Donc, il y a des situations où la maladie, la mort sont la conséquence du péché. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il est important pour le croyant, quand il est dans une situation particulière, de consulter Dieu. Seigneur, montre-moi s'il y a quelque chose, quand il est malade, dans ma vie, que je devrais régler. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai commis? C'est une occasion. La maladie est une occasion de demander à Dieu, ou la souffrance, de demander à Dieu, révèle-moi s'il y a quelque chose dans ma vie qui est contraire à ta volonté. Donc le chrétien doit être sensible à cet aspect des choses. Et c'est pour ça que Jacques dit ici qu'ils doivent confesser leurs péchés les uns aux autres, prier afin d'être guéris. Je m'arrête ici, chers frères et sœurs, avec quelques petites conclusions. Pour le moment, on peut noter que Dieu veut que, qu'en toutes circonstances, nous venions à lui, on l'a dit, hein. Soit dans la prière personnelle, soit en sollicitant la prière de la part des anciens, soit en priant les uns avec les autres. Toujours venir à lui. Deuxièmement, Dieu est plus préoccupé à développer en nous un caractère. Quand il nous demande de prier, c'est parce qu'il veut développer en nous un caractère de dépendance vis-à-vis de lui, et aussi vis-à-vis des autres. Parce que quand il dit qu'on doit solliciter la prière de la part des autres, ou qu'on doit prier les uns pour les autres, ça veut dire qu'on doit se rendre dépendant les uns des autres. On ne peut pas dire à quelqu'un, je n'ai pas besoin de toi. Ça, c'est le comble de l'orgueil. Quand l'Apocalypse parle de l'église de Laodicée, qu'est-ce qu'il lui reprochait? Il lui dit, parce que toi, tu dis, Apocalypse chapitre 3, verset 17, il dit, faut que je retrouve la référence. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est ça le gars. J'ai besoin de personne. J'ai besoin de rien. Je peux faire. Et souvent, comment on réagit quand on est dans des difficultés ou dans des situations? On veut se débrouiller par soi-même. Je vais m'en sortir. J'ai pas besoin de toi, les parents, j'ai pas besoin de l'église, j'ai pas besoin des anciens, j'ai pas besoin des frères et sœurs. Je vais me sortir moi-même de cette situation. Dieu dit non. Il dit, tu as besoin les uns des autres. La Bible dit même que Dieu a formé le corps de l'église et il a disposé les membres de manière à ce que chacun ait besoin les uns des autres et que chacun ait soin les uns des autres. Et il dit, à un moment, il dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Dans le corps de Christ, personne ne peut dire, on ne peut pas dire l'un à l'autre, je n'ai pas besoin de toi. On a tous besoin les uns des autres. Et c'est ainsi que Dieu a formé le corps, pour nous rendre interdépendants. Et Dieu veut forger en nous ce caractère de dépendance vis-à-vis de lui, mais aussi, je crois, vis-à-vis des uns et des autres. Et puis, Dieu veut aussi que ses enfants apprennent à vivre des moyens ordinaires qu'il donne à son assemblée. Vous voyez ici, le croyant a la responsabilité de solliciter, d'appeler les autres, d'appeler les anciens quand ils traversent une situation difficile. Jacques ne dit pas, allez chercher quelqu'un qui a le don de guérison. Vous avez vu ça? Il dit, allez chercher les anciens. C'est-à-dire ce que Dieu met autour de nous. Ce que Dieu nous donne dans l'assemblée dans laquelle il nous a placés. Dieu agit de manière extraordinaire par les moyens ordinaires qu'il place dans son assemblée. Et quand le croyant prie, il exprime qu'il croit que Dieu a la puissance d'agir à travers les moyens ordinaires et simples qu'il a mis de manière extraordinaire. Et Dieu veut apprendre cela aussi à son Église. Nous allons prier, chers frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et nous te prions que par ton esprit, tu puisses encore rendre ces vérités plus présentes dans nos cœurs. Donne-nous de nous soumettre à ce que nous avons lu, à ce que nous avons saisi de ta parole. Conduis-nous à prier pour nous-mêmes dans toute situation, à être humble pour solliciter la prière de la part des autres. Seigneur, quand la nécessité se montre, et aussi à être sensible à la question du péché dans notre vie. Et Seigneur, donne-nous de pouvoir constamment regarder à toi, chercher à marcher d'une manière de plus en plus proche de toi. Seigneur, détourne nos cœurs du mal et du péché, donne-nous de écline-les vers toi, vers ta loi, vers tes préceptes, pour la gloire de ton nom. Amen.